accueillons ce soir Anne Souka et Guillaume Nicolas. Jean-Pierre va les présenter un peu plus longuement, mais je voudrais rappeler à ceux qui ne savent pas dans quel contexte se situent ces rendez-vous. En fait, Confrontation, Association d'intellectuels chrétiens, propose tous les troisièmes mercredis des mois des rendez-vous sur un certain nombre de thèmes. Alors, les séances sont organisées par cycle de trois et celle qu'elle existe pour demain, on est au troisième rendez-vous sur ce thème-là. Les précédents étaient sur l'évangile du pouvoir avec Marie Gauthier et Dominique Collin. Le deuxième était avec Monique Hébrard et Jean-Pierre Rosa, sexualité, quelle parole en Église. Et ce soir, donc, nous allons parler de sacralisation et gouvernance avec nos deux invités. Ces rendez-vous, je viens de le dire, ont lieu tous les troisièmes mercredis du mois, pas toujours au centre Sèvres, le plus souvent à la Ligue aux Bois, à quelques centaines de mètres d'ici. Nous vous invitons à profiter de ce rendez-vous que nous proposons. Et on m'a demandé d'intervenir pour faire une petite piqûre de rappel. Alors vous allez voir, elle n'est pas longue, mais pas très compliquée. La mise en œuvre de tous ces chantiers et de ces rencontres ont des coûts marginaux. C'est la raison pour laquelle nous avons mis une petite boîte à la sortie. Et nous vous invitons à contribuer généreusement, à la mesure de vos moyens, à cet effort de confrontation et de beaucoup d'autres, essayer de faire continuer à exister le débat public en période de coronavirus. Et on prend un soin jaloux à veiller que tous les comportements sanitaires et préventifs pour éviter l'extension du virus soient appliqués lors de nos rendez-vous à la Ligue aux Bois ou ici. Donc tout ça me paraît assez safe en tous les cas, et on espère que le couvre-feu éventuellement annoncé ne nous empêchera pas de continuer à vous donner rendez-vous pour discuter, et pour nourrir le débat dans l'Église aussi. Merci à tous.
Merci.
François.
Oui, donc, si vous permettez, je préfère parler sans, parce que j'ai une voix très sourde, sans ce genre de tissu. Oui, donc, c'est là, les trois derniers mercredis ont été beaucoup chamboulés, d'ailleurs, dans leur ordre et dans leur date par la crise sanitaire. Donc, l'idée, c'est quelle Église pour demain. On a vu que la crise du coronavirus a amplifié un certain nombre de choses qui étaient déjà existantes, et la crise de gouvernance dans l'Église est devenue une chose patente, même la crise tout court de l'Église. Donc, la question se pose évidemment, quelle Église pour demain, sur des domaines comme la sexualité, bien sûr, la gouvernance, et aussi, bien sûr, la question de la sacralisation du pouvoir. Alors, on a déjà traité ces deux premiers thèmes. Le thème de la sacralisation, il est assez évident, il est lié à la forme d'exercice du pouvoir dans l'Église. On a ici, je ne vais pas être très long parce qu'il faut laisser parler les intervenants, on a ici deux personnes parfaitement qualifiées, avec des titres divers pour en parler. Donc Anne Souka, que vous connaissez déjà, puisqu'elle est intervenue déjà dans ces mercredis de confrontation, et déjà sur un thème ecclésial qui était celui de la place de la femme dans l'Église avec Anne-Marie Pelletier. Elle revient maintenant pour parler de cette question de sacralisation de la gouvernance. Donc, vous la connaissez, théologienne, bibliste, fondatrice sur une parole malheureuse du cardinal Valtrois, du comité de la Jupe, ensuite de la conférence baptisée de France. La dernière chose en date qu'elle ait faite étant de présenter sa candidature au primatiat des Gaules. Donc voilà, elle en parlera elle-même, et elle était tout indiquée pour parler de cette question sur le fond, bien sûr, et aussi dans ses évolutions souhaitables, possibles, on verra. Et puis, Guillaume Nicolai, qui lui est quelqu'un qui vient, qui est maintenant délégué général de la délégation d'irrigation catholique à la coopération, la plateforme d'envoi de volontaires de solidarité internationale dans le monde. Ses origines sont plutôt du scoutisme, il vient du scoutisme, il est proche de la mission de France et il vient de la sphère du privé. Donc c'est un tout autre univers, un univers quasi-universitaire qui est assez souvent le nôtre. Mais l'expérience qu'il a menée, notamment avec d'autres mouvements d'église pour prévenir et réfléchir sur la question des abus dans un certain nombre de situations que connaissent ces mouvements, mérite aussi d'être entendue parce qu'elle a posé, elle pose des questions au plus haut niveau de l'Église. Voilà, et sans attendre, je vais passer la parole à Anne pour une bonne trentaine de minutes.
Bonsoir, et je vous demande la permission de parler de manière assez claire sans mon masque. Alors, sacralisation et gouvernance. Bien sûr, on peut rappeler très brièvement que le sacré est une notion considérable et que l'attitude de l'Évangile et l'attitude de l'Église me semblent assez opposées sur ce sujet. Je crois que l'Évangile a désacralisé et que l'Église n'a cessé de sacraliser. Donc je voudrais souligner ça d'entrée de jeu et rappeler très brièvement que dans l'Église, l'association entre le pouvoir et le sacré est omniprésente. Dans les grands textes de Vatican II, vous avez en abondance dans Lumen Gentium la mention du sacré. On parle de la sacrée primauté du pontife romain. On parle du ministère sacré de l'évêque. Et pour désigner le prêtre, on utilise le terme de sacré pour le distinguer du laïc. Bon. Depuis Vatican II, et encore plus depuis les années 90, la société aussi a exprimé une demande de sacré, une demande très importante que, pour ma part, j'explique par la disparition de toute transcendance, et on demande à l'Église de faire un geste du côté du sacré. Donc je l'interprète comme une poussée sur l'Église de façon à ce qu'elle resacralise de plus en plus dans l'Église aussi. Bon. Alors pour répondre maintenant strictement à la question qui était posée, qui est la sacralisation, donc l'action de rendre plus sacré, je voudrais l'aborder en deux aspects. Le premier est la sacralisation du pouvoir, avec la sacralisation du prêtre. Et le deuxième volet est la sacralisation de la masculinité du prêtre. Voilà, ce sont deux étapes qui ont été différentes et je voudrais essayer de bien les distinguer. Alors, la sacralisation du prêtre, d'abord. Alors, elle a par une sorte de réaction à la promotion du laïcat qui avait eu lieu à la suite de Vatican II, le pontificat de Jean-Paul II a été un pontificat de recléricalisation. Mais j'ai beaucoup appris du livre de Christine Pedotti il y a quelques mois qui montre que ce serait la ligne de force de son pontificat, cette recléricalisation. Bon. Alors, je commence par un petit retour en arrière. Dans Lumen Gentium, on affirmait déjà une différence essentielle entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel. On disait qu'il y avait une différence essentielle. Bon, mais dans Christi Fideles Laici, en 88, Jean-Paul II accentue le trait. Il dit qu'il y a une différence de nature et non de degré. Bon, différence de nature, ça va un petit peu plus loin. Nature, une différence de nature et non de degré dans la participation au sacerdoce du Christ. Bon. Et il commente le canon 230 qui dit « Là où les nécessités de l'Église le conseillent et à défaut de ministre sacré, des laïcs peuvent intervenir en suppléance telle pour telle ou telle de leurs fonctions. Bon. Et Jean-Paul II ajoute, il faut toutefois remarquer que l'exercice d'une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur. En réalité, je continue à le citer, ce qui constitue le ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ, chef et pasteur, et à son sacerdoce éternel. Voilà l'inflexion qu'a posée Jean-Paul II dans cette différence entre les laïcs et le ministère ordonné. Alors, ce qui étonne, c'est de mettre le contenu du pouvoir plus dans l'ordination que dans l'activité, ce qui est à rebours du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament partait des charismes des personnes et pour définir ensuite des fonctions. Et là, on parle des fonctions, une ordination qui va définir une activité. Bon. Ne risque donc pas de faire du sacrement un en-soi déconnecté du récipiendaire. Voilà la question que je pose. Bon. Alors, une autre manière de sacraliser qui est devenue courante aujourd'hui est d'appliquer au Christ, au prêtre, des formules qui le configurent encore plus au Christ. Je souligne le grand usage actuel fait de deux formules associées au ministère ordonné, in persona Christi et alter Christus. Alors, en ce qui concerne la première, in persona Christi, le frère Dominique Marliangias a montré qu'elle n'était jamais appliquée au sacerdoce ordonné avant Pierre Lombard au XIIe siècle, et qu'en plus une confusion de la Vulgate sur la traduction de 2 Corinthiens 2 avait transformé en présence du Christ à en tenant le rôle du Christ. Donc on est dans un glissement. Quant à la formule Alter Christus, eh bien elle appartient au patrimoine de tout chrétien. C'est une formule patristique qui disait le chrétien est un autre Christ. Et elle a été amputée d'une partie de son application au XVIIe siècle par l'école française de spiritualité. Et depuis une vingtaine d'années, elle a envahi les séminaires et les prêtres la citent énormément. Enfin, le cardinal Sarah, dans l'un de ses derniers livres, dans le livre co-signé avec le pape Benoît XVI, a dit que pendant l'Eucharistie, le prêtre était ipse Christus, le Christ lui-même. Bon. Et dans un registre plus simple et plus courant, j'avoue que j'ai souvent été heurtée en entendant tel ou tel prêtre dire qu'en prononçant les paroles de la consécration, il avait le pouvoir de faire descendre le Christ sur l'autel. Alors si le mot sacré n'est pas utilisé dans cette formule, on voit quand même que la stratégie est de sacraliser en rapprochant le prêtre du Christ. Voilà, donc, en conclusion de ce premier temps, il me semble qu'il y a une sacralisation de plus en plus marquée de la figure du prêtre, donc de la figure du pouvoir dans l'Église. Ça, c'est donc le premier temps. Alors, je voudrais montrer maintenant qu'il y a une sacralisation de l'homme prêtre. C'est une démarche plus récente. Et je crois que l'institution a cherché à fortifier à la fois la masculinité du prêtre et la sacralisation du ministère ordonné. Et il me semble que ce mouvement a été réactif à l'émancipation des femmes dans les années 90. Parce que c'est à ce moment-là que Jean-Paul II publie beaucoup sur les femmes et qu'il va publier la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis en 1994. Et là, effectivement, il entend clore les demandes des femmes qui étaient à ce moment-là assez nombreuses d'accéder à la prêtrise, et il publie la lettre aux femmes en 95, une année après. Enfin, bon, c'est les deux documents sont assez proches. Je vais d'abord commenter la lettre aux femmes et je reviendrai sur Ordinatio Sacerdotalis après. Alors, cette lettre a été publiée le 29 juin, jour des saints Pierre et Paul. Et j'y vois une tension entre la masculinité de Pierre et Paul et la lettre aux femmes, où effectivement il analyse le fameux verset de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide qui lui soit assortie. » Bon. Alors, là, je ne résiste pas au plaisir de dire que le pape a surinterprété le texte de Genèse 2. Parce que le Adam dont il s'agit, vous savez ça très bien, mais je le redis, le Adam dont il s'agit, c'est l'être humain, ça n'est pas l'homme masculin. Donc demander une aide pour un homme masculin qui n'existe pas encore, c'est quelque chose qui est de la surinterprétation. Ça n'est pas possible de tenir exégétiquement cet argument. Bon. Et je trouve assez amusant que Jean-Paul II révèle ici un très léger sentiment de supériorité. La masculinité est assez éminente pour avoir du personnel de service. Voilà, la femme. Bon. Alors, je caricature parce que c'est très amusant. Dans les notes de ce commentaire de Jean-Paul II, il revient un petit peu en arrière et il dit « Non mais, l'homme peut être aussi laide, attention, hein, j'ai pas dit que ça. Hein, » bon. Donc, il y a une petite tendance à la rectification en bas de page. Voilà, on est pour les bas de page, les femmes. Voilà. Ensuite je reviens à Inter Insigneres, donc de Paul VI en 1976, et à Ordinatio Sacerdotalis de Jean-Paul II en 1994. Les deux traitent de la décision romaine de ne pas laisser l'accès aux femmes au ministère ordonné. Mais les deux documents ont des inflexions tout à fait différentes. Le pape Paul VI dit simplement « Je ne suis pas en mesure de décider, nous n'avons pas les moyens de savoir, peut-être que plus tard, mais pour l'heure, nous ne décidons pas. » Alors que Ordinatio Sacerdotalis dit que la question du sacerdoce est requalifiée en en faisant non plus une simple discipline interne, mais en disant que c'est une volonté et une décision divine. Voilà, on ose d'un niveau et on place en Dieu même cette décision. En Dieu même. Bon. C'est donc un sacré divin qui va pérenniser la masculinité du prêtre. Voilà, je crois que ça c'est important parce qu'on a sauté une étape dans la sacralisation. C'est le sacré divin qui cautionne la masculinité du prêtre. Le pape dit « L'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles. » Bon, moi je trouve le procédé, là je vous livre ma pensée, je trouve le procédé assez terrifiant parce qu'on requalifie en Dieu une décision pareille. Je trouve que c'est une sorte de coup de force. Et je voudrais vous en montrer quelques conséquences. C'est que, d'une part, le pape met d'un même mouvement dans la main de Dieu à la fois la nature féminine et la masculinité de l'ordination sacerdotale. Bon. C'est un peu le pendant de la lettre aux femmes qui est faite le jour de la Saint-Pierre et Paul. Je les lis dans ma conception de la chose. Il s'en remet à Dieu pour dire ce qu'est le masculin et ce qu'est le féminin. D'une certaine façon, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que le masculin tient la place. Bon, quand même une grosse différence. Bon. Et il semble induire que les femmes offenseraient Dieu si elles accédaient au ministère ordonné. Enfin, troisième conséquence, il décide que les femmes n'accèdent pas au sacré. Et ça, ça me paraît essentiel. Essentiel. Et je me souviens, il y a quelques mois, j'étais à une interview pour La Croix avec Mgr Vesco, et à un moment, dans la conversation avec le journaliste, Mgr Vesco a dit, mais les femmes, non, pas le sacré, ça lui a échappé, c'était insupportable. Ça m'a donné à penser qu'effectivement, là, il y avait peut-être la marque de ordination sacerdotalis qui n'était pas loin. Bon. Autre sacralisation de la masculinité du prêtre, dans Inter Insignores, donc là je reviens en arrière dans le document de Paul VI, on dit « le Christ fut et demeure un homme ». Il est dit « le Christ », il n'est pas dit « Jésus ». Alors, est-ce qu'on parle du Christ post-pascal ou est-ce qu'on parle du Verbe de Dieu? Si on dit « demeure », c'est bien que l'on pense au Verbe de Dieu. Mais là, masculiniser le Christ ad aeternam a des conséquences très graves. Comment le Christ peut-il représenter l'humanité entière et la sauver si sa masculinité est ainsi majorée? N'a-t-il pas connu tout de l'humanité? Ne sauverait-on plus que les hommes et non les femmes? Ah, là, je pense qu'il y a un vrai problème de sotériologie. Bon. Alors, le fondamentalisme, à mon avis, qui appuie cet argumentaire, est que les douze sont des hommes. Excusez-moi. Bon. Mais jamais on ne dit que les douze sont douze à cause des douze tribus d'Israël. Et que les douze tribus d'Israël, elles représentent la totalité d'Israël. Que par conséquent, l'appel des douze, c'est un appel à tout le monde. C'est exactement le contraire d'un appel sélectif et sexué. C'est exactement le contraire. Bon. Donc, je pense que l'argument l'utilisation de l'argument des douze ne tient pas compte des décalages culturels, d'abord, et il ne tient pas compte de la profondeur interprétative de cet appel aux douze, qui est un appel aux douze tribus. Je crois que c'est un commentaire qui raccourcit, enfin c'est une interprétation qui raccourcit énormément le texte évangélique. Alors j'en viens à un troisième degré, qui est plus un degré un petit peu distancé. Je voudrais voir avec vous les limites de la sacralisation. Je vois plusieurs limites. Le premier, c'est que la sacralisation exclut. Quand on sacralise, non des gestes, mais des personnes, ce que j'ai essayé de montrer à l'instant, on induit une exclusion. L'exclusion en question, c'est l'exclusion du féminin. Avec ces imprudences théologiques que je viens d'évoquer, le peuple de Dieu est désormais clivé. Le féminin a basculé du côté du non-sacré, du côté de l'impur. Et j'en vois une preuve dans la répulsion qu'ont certains prêtres à laisser accéder à l'autel des femmes, en disant non, les femmes ne doivent pas monter à l'autel, mais on est dans une reviviscence de l'impur. L'impur du sang, alors que la Bible valorise le sang comme quelque chose qu'il faut protéger, et bien là, au contraire, on est dans une interprétation très négative des femmes et une interprétation d'impureté. Mais je voudrais surtout vous montrer, c'est ça qui m'intéresse le plus, que d'une certaine manière, l'homme aussi est exclu par ce mécanisme-là. Mais il ne le voit pas, du moins il ne le voit pas encore. Parce qu'en insistant sur la différence sexuelle, le magistère a aussi identifié l'homme à son sexe. C'est quelque chose de terrible parce que c'est ce dont souffrent les femmes depuis beaucoup de temps dans l'Église. Je n'arrête pas de dire que les femmes sont hyper sexualisées dans l'Église. Parce qu'il n'y a aucun discours magistériel qui ne commence par l'épouse et la mère. C'est toujours comme ça. Bon. Eh bien, là, par cette masculinisation de cette sacralisation de la masculinité du prêtre, on a réduit l'homme, l'être humain homme, à sa balance sexuelle. Et ça, je trouve que c'est très grave. Ça me paraît très grave. Je n'aimerais pas célébrer à cause de mon sexe. Je trouverais ça rabaissant. Voilà, ça me choque énormément. Et je ne sais pas si les hommes s'en rendent compte. Mais en tant que femme, je ne peux que le savoir depuis toujours. Mais en arriver à pouvoir être prêtre parce qu'on dispose d'un pénis, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur. Et c'est atrophier un être humain d'une partie de son humanité. Voilà, c'est ce que je voudrais le plus faire comprendre dans ce petit exposé. Bon. Et alors, la question est plus subtile parce que le Vatican a toujours dit que le masculin représentait l'humanité entière. Donc, quand on parle des hommes, on parle de tout le monde. Mais les femmes ont pris l'initiative de contester ça. Elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas représentées par cette appellation homme qui était générique. Et aujourd'hui, elles demandent, ou bien qu'on dise frère et sœur, ou bien une écriture inclusive, ce qui complique quand même beaucoup la vie. Bon. Mais elles demandent au moins à ce que le Vatican ne continue pas à dire que l'homme représente l'humanité entière. Et le pape a pourtant continué. On a fratelli tutti, on n'a pas fratelli e sorelle, on a fratelli tutti. Bon, donc on est quand même encore dans ce mécanisme-là. Mais c'est un mécanisme que la société n'accepte plus. Et donc l'Église me paraît acculée à reconnaître que l'homme masculin, c'est l'homme masculin, point final. Et non plus l'humanité tout entière. Donc, je pense que la sacralisation ecclésiale, poussée à ce point, est une amputation de la nature humaine. Et qu'en excluant, elle devient profondément infidèle à l'attitude de Jésus. Et je rappelle, parce qu'on ne s'en rend pas tellement compte, je trouve, la première attitude de Jésus, c'est de refuser l'exclusion, bien plus que la pauvreté. Et accepter dans l'Église une exclusion de ce type, voilà, c'est lourd de conséquences. Deuxième fragilité de la sacralisation, c'est qu'elle est une sorte d'ersatz du service. Je m'explique. Associer de manière trop excessive la gouvernance à la sacralisation, c'est quelque chose d'assez dangereux. Parce que la sacralisation, là je dis peut-être mon point de vue, peut-être que je vais choquer certains, c'est un adjuvant, c'est une béquille, c'est la béquille à une autorité qui ne se suffit pas à elle-même. Disons que c'est comme ça que je conçois la sacralisation. C'est peut-être une faute théologique, mais je l'assume. Bon. Et quand on a une gouvernance saine, on a une gouvernance qui offre un service. Si on a besoin de la sacraliser, c'est que le service est malmené. Et je crois que c'est ça la faute de la sacralisation excessive. C'est ou bien c'est qu'elle maquille, elle maquille une gouvernance qui ne sait plus rendre service. Voilà. Alors tant que les prêtres rendent des services, la sacralisation, c'est une sorte d'adjuvant. En fait, c'est un respect bien compris. On respecte bien un prêtre, oui. Mais on n'a pas besoin de dire qu'il est sacré. On le respecte naturellement. Mais plus on insiste sur la sacralisation, plus le service est en péril. Et je voudrais terminer en évoquant la sacralisation à la lumière des abus. Parce que, effectivement, si la sacralisation maquille une gouvernance qui est en fragilité, quand le maquillage tombe, eh bien c'est une catastrophe. Bon. Et effectivement, quand on est bien grimé, ça passe, mais quand le maquillage, ça ne fait pas un visage. Bon. Et c'est ce qui se vérifie avec les abus. Le maquillage était, c'est d'autant plus grave que le maquillage était extrêmement efficace. Parce que c'est parce qu'il y avait sacralisation qu'il y a eu abus. C'est parce que des enfants et des femmes ont pris le sacré des prêtres au sérieux. C'est là où ça devient vraiment une vraie une catastrophe colossale. La sacralisation, elle a promis Dieu et elle a vendu le diable. Voilà, c'est une formule que souvent les victimes utilisent et on les comprend très bien. Donc, à mon avis, la sacralisation est discréditée à cause des abus, de manière très durable, et elle atteint la gouvernance elle-même. Alors, j'ai entendu une interview récente de Monseigneur Dulos, dans un journal italien. Il disait, ce n'est pas le prêtre qui accomplit l'Eucharistie, c'est le Christ. Et je crois malheureusement que ces paroles n'atteignent pas le fidèle. Le fidèle ne se rend pas compte de la profondeur théologique des choses, du moins il ne s'en rend pas assez compte, et la formule de Monseigneur Dubos passe à côté de son impact. Pour que cette phrase soit crédible, il faudrait qu'une fois, on ait une célébration où il n'y a personne sur l'autel, au moins pendant une partie de la messe. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me suis rendu compte de la puissance que ça avait. Un autel vide pendant et le prêtre dans l'assemblée qui tient son micro. Bon, ça a une puissance d'évocation très très forte. Bon, mais ça n'est pas le cas dans nos célébrations habituelles. Bon. Par conséquent, la formule, je reviens à la formule de Monseigneur Dubos, dire ce n'est pas moi qui célèbre, c'est le Christ, ça risque de n'être qu'une belle parole, mais rien d'autre. C'est pour ça que vraiment c'est assez grave. Bon. Alors si je pousse à son terme la remarque de Monseigneur Dubos, premièrement, la sacralisation a abouti à des catastrophes. Deuxièmement, la gouvernance s'efface. Troisièmement, le Christ n'est pas visible, parce que ça n'atteint pas le fidèle. Donc s'il n'y a plus ni sacralisation qui tienne, ni gouvernance qui s'assume, mais qu'il reste du Christ et que la présence du Christ ne soit pas affirmée et vécue, alors il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et ça pose une question terrible, qui est que faire maintenant? Je conclue. Alors, faut-il renoncer à la sacralisation? Moi, je crois qu'il faut modifier le canon 1008, qui dit que le sacrement de l'ordre est d'institution divine. Le Monseigneur de Moulin-Beaufort a fait un petit pas dans ce sens dans un article important qui s'appelait « Que nous est-il arrivé ?» un article de 2018. Donc je crois qu'il est urgent de rebondir sur la gouvernance. Il est urgent de faire alors que l'institution se cache et ne dit rien et ne fait rien. Les derniers mois n'ont pas été très actifs du côté de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on a vu pendant le confinement? On a vu la tentative de dire que la liberté religieuse était entamée par le confinement. C'est un pas de clair. Bon. On a vu aussi l'épiscopat mobilisé contre les lois éthiques. C'est toujours la même chose qui revient. Bon. Alors, qu'est-ce qui bouge? Là, je vais vous donner une réponse très audacieuse, mais je l'assume. Ce qui bouge, ce sont les femmes. Ce qui bouge, je suis désolée, c'est ma candidature. Et je vais vous la présenter de manière extrêmement profonde. Ma candidature est une réponse au vide de la gouvernance. Il y a quelque chose d'insupportable à ce qu'une gouvernance s'efface. Là, je parle de quelque chose de ressenti, mais je crois que collectivement, nous vivons ces choses-là. Et je crois que le mouvement de réveil des femmes, c'est ça. C'est une manière de dire, ben, on est là quand même, mais pas dans une perspective de provocation ni de compétition. Mais c'est, vous vous effacez, mais on est là. Vous savez, en informatique, quand on a perdu un fichier, on peut trouver un fichier alias. c'est-à-dire un fichier qui remplace un fichier perdu. Et moi, la gouvernance actuelle me donne l'impression d'être perdue, et je dis, mais il y a des femmes, je le dis à la fois en riant, parce que je ne demande qu'à rire de moi, mais je suis assez sérieuse en disant ça. Les femmes disent, d'une certaine manière, tout va mal, mais on est là quand même, on est là. D'autant plus que le modèle de gouvernance, on est prêt à en discuter, on sait ce que c'est que la gouvernance de l'Église. Certainement, il y a des choses à changer, mais il y a des tas de choses qui vont très bien aussi, enfin, qui se sont vérifiées avec les faits au cours de l'histoire. Donc, les femmes sont là, on est prêt à offrir quelque chose à la gouvernance ecclésiale. Et je crois que si l'institution était rusée, elle composerait avec les femmes aujourd'hui. Je le dis assez sérieusement, elle tendrait la main et dirait « Bon, allez, on y va, on fait quelque chose et on essaie de ressembler à l'Évangile. » Voilà. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop longue. Non ? Bon, merci beaucoup.